que Yann Farsi ne soit pas là. J'allais le présenter, j'ai préparé la présentation, donc je vais la faire quand même. Non, c'est une blague. Alors du coup, j'ai le plaisir de vous présenter Paul Dicci. Alors, beaucoup d'entre vous qui sont pas Staps ne le connaissent pas forcément. C'est juste une... Pardon ? Tous les autres le connaissent. En tout cas, tous les Staps. C'est à l'heure actuelle le plus grand historien en France quand il s'agit de l'histoire du football. Ouais. Ouais, qui est reconnu au niveau international. Voilà, donc ses travaux portent riche. Beaucoup là-dessus. Il est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Franche-Comté, donc c'est un voisin d'Audrey. Et simplement, dès le premier colloque où on s'est rencontrés, bon, on a parlé foot forcément, et néanmoins le soir, je me rappelle, autour d'une bière, la discussion a viré assez vite autour de la musique, et puis j'avais déjà, dès lors, vu qu'il y a une bonne connaissance de ce qui se passait dans le monde, pas forcément dans le punk en particulier, mais dans le monde musical des années fin de 70, début 80. Voilà, j'en dis pas plus, et puis je laisse la parole à Paul.
Bien, merci Laurent et merci comité d'organisation, hein, c'est un plaisir d'être là et de vous avoir écouté. Je ne suis pas du tout spécialiste évidemment de la question, mais je vais essayer de faire de mon mieux et d'aborder d'abord un point de vue évidemment à la fois entre ce qu'on pourrait qualifier de égo-histoire, parce que c'est aussi une expérience personnelle, et puis un essai un peu d'histoire culturelle, des représentations produites autour de la musique punk, pas seulement de la musique punk. Le point de départ, c'est quoi ? Le point de départ, c'est ça. C'est que j'ai fait partie des 15 000 personnes, alors à entendre d'autres personnes, j'ai l'impression qu'il y en a 100 000, 300 000, 400 000, qui ont assisté au concert des Clash en septembre 1981 à Mogador. Et à un moment donc où j'étais aussi assez passionné par cette musique, j'avais une guitare électrique, j'avais un ampli. Et évidemment, les Clash étaient dans un moment un petit peu entre punk, post-punk. L'affiche est d'ailleurs intéressante parce qu'on voit que la photo qui est prise, c'est une photo qui date certainement de 77-78 et qui correspond pas du tout finalement au code vestimentaire qui est adopté à ce moment-là par le groupe. Le lieu, j'y reviendrai d'ailleurs, est un lieu, c'est pas un squat, c'est Mogador, mais Mogador dans un état absolument désastreux, hein, c'est poussiéreux, c'est un lieu relativement dangereux à mon avis pour accueillir au moins 2000 personnes le soir, mais il y a cette dimension aussi un petit peu destroy hein, du concert. Et alors je sais pas à quelle soirée, parce que c'est toute une semaine hein, qu'ils occupent avec un soir de relâche. Bon, moi j'étais sur la droite, au fond de l'orchestre, pas devant hein, pour prendre des coups, mais vous voyez qu'il y avait cette ambiance qui était une ambiance entre punk très très masculine. Hein. Et c'est un aspect peut-être qu'il faut peut-être davantage développer, c'est ce côté hein, de cette culture masculine qui est liée à cette musique. Alors, pourquoi j'ai ajouté Blondie et Debiari ? Parce que un de mes plaisirs, c'est de lire soit des autobiographies, soit des livres sur ces groupes de rock, toute une bibliothèque. Et dans ce livre, eh bien, Debiari se dit punk. Il y a un chapitre où elle dit « Born to be punk ». Et elle est punk pourquoi ? Parce qu'elle a vécu finalement cette vie que vous avez évoquée tout à l'heure, des squats, dans un New York, qui est un New York de freaks, hein, qui est un peu le... Je ne sais pas si vous avez vu le film New York 1999, hein, et un certain nombre de chansons hein, de Blondie, de rappel d'ailleurs, hein, c'est finalement harceleurs, violeurs, etc., qui peuplent la ville elle-même. Lorsqu'elle est dans un squat, elle se fait violer avec, alors qu'elle est avec son compagnon Chris Stein. Et une partie, finalement, des chansons de Blondie, hein, évidemment, quand on pense Blondie, on pense plutôt pop, voire un petit peu disco, mais ça, c'est évidemment des chansons qui sont faites pour avoir des royalties, mais une partie des chansons, ça, c'est finalement le format punk, 3-4 minutes, très rapide, sur un rythme très rapide, et Blondie commence avec les Ramones et d'autres groupes dans au CBGB, l'un des grands clubs de New York. Hein. Donc c'est pour ça aussi que je l'évoque. Alors, on a évoqué des références théoriques. Eh bien, quand j'avais 20 ans, il y a ce livre qui sort à 150 000 exemplaires, qui passe chez Pivot. Alors, il y a trois auteurs. Bon, il y en a un qui a mal tourné, c'est Soral. Les auteurs, ils sont souvent étudiants à l'HESS, etc. Et c'est un livre, évidemment, qui est à la fois très pointu. Alors, pas toujours, parce qu'il classe les Jam comme un groupe de punk, ce qui est quand même une erreur, me semble-t-il. Mais en même temps, eh bien, il y a évidemment, c'est entre humour et en même temps connaissance très fine de ces mouvements de mode. Alors, c'est aussi mouvement de mode musical, mais ça se réfère aussi d'abord et au corps et aux vêtements. Hein. Et c'est pour ça que c'est un livre qui est, me semble-t-il, très précieux. Et ce que je vais faire ici, c'est alors à la fois combiner mon expérience personnelle, l'étude à partir de sources. Alors, bon, je reviendrai sur cette filiation punk. Bon, je suis retourné à la BNF, parce que j'ai jeté tous mes collections de rock and folk, hein, malheureusement. Et j'étais dans la salle histoire, et les gens me regardaient un peu bizarrement, hein, qu'est-ce qu'il fait celui-là. Et donc, je suis revenu dans rock and folk. Je suis revenu également dans Best. Bon, Best, on le méprisait un peu, parce qu'il y avait des posters dedans. Ça faisait un peu magazine de foot, en gros. Rock and folk, c'était plus un télo. Bon, ça date de 66, hein, donc il y a plusieurs générations qui écrivent dedans. Mais pourquoi j'utilise ça? Parce que on a parlé des réseaux sociaux, on parle Internet. À l'époque, et on en parlait ce matin avec Luc, finalement, il y avait très peu d'images qui circulaient. Rock and Folk, on le lisait, on le relisait, une exégèse évidemment très fine, avec des photos d'ailleurs souvent qui sont sans crédit, on ne sait pas d'où ça vient. Mais la photo est évidemment très importante dans Rock and Folk. Pourquoi? Parce que ça documente le corps, le style corporel et le vêtement. Et vous voyez, un photo de clash, alors, affreux jeu de mots comme il y en a beaucoup dans Rock and Folk, et puis en même temps, vous avez des textes qui sont extrêmement denses. Là, c'est les comptes rendus, hein, de concerts. Rock and Folk, je me rappelle, on lisait ça pendant plusieurs jours. Hein. Et puis, il fallait comprendre les blagues, il fallait comprendre les jeux de mots, etc. Donc, c'était une des sources essentielles. L'autre, c'était Chorus. Hein. Il me semble que c'était samedi ou dimanche matin, selon les années, qui était vraiment une émission, mais qu'il fallait pas rater, hein, parce que il n'y avait pas de rediffusion sur le net. Hein. Ça, c'était. Et puis, il y avait mon idole, Bernard Lenoir. Hein, Feedback, à 9h du soir sur France Inter. Là, on pouvait, avec les cassettes enregistrées, je me souviens mon désarroi lorsque, cassette où j'avais enregistré un concert des Clash, justement, c'était dévidé et il avait été impossible de rembobiner la cassette. Voilà, donc, un autre environnement, finalement, hein, qui est celui d'images qui sont parcellaires. Bon, moi, j'habitais la région parisienne. Et puis même pour les concerts, hein, bon, on savait, c'était plus ou moins bien annoncé, il fallait aller à la FNAC ou dans un autre point de vente acheter les billets. Donc les choses étaient évidemment plus précaires et peut-être l'imaginaire qui se développait autour finalement de cette musique était peut-être plus fort. Alors dans le livre, hein, que j'ai cité, voilà la filiation Global Punk. Alors pourquoi ça fait partie du punk? Bon, évidemment il y a l'humour dedans. Blondie en fait partie puisque ça fait partie évidemment... Vous voyez, ex-underground, et c'est finalement ce qu'on peut qualifier, hein, comme Blondie. Et puis, il y a le punk anglais, et on va voir que Clash, ils deviennent un peu le punk aussi politique, politisé, dès le départ, mais surtout à partir, évidemment, de Sandinistes. Alors, ce que je vais essayer d'évoquer ici, c'est quoi? C'est voir au travers donc de ce matériel que moi-même j'ai lu, hein, qui m'a fait fantasmer, hein, parce que c'est aussi une lecture pour adolescents, hein, qui était un adolescent aussi libidineux comme d'autres à cette époque-là. Et Rock and Folk, c'est d'abord un périodique pour les hommes. Hein. C'est très peu féminin, donc évidemment, on va voir qu'il y a une sursexualisation du corps et de la personne de Debbie Harry, mais elle en joue aussi, évidemment. Donc, il y a cette dimension-là d'apprentissage aussi. Hein. C'est vrai que quand on est jeune, moi j'avais entre 16 et 18 ans, après bon, j'étais en classe prépa, j'ai dû quitter cette culture-là, mais entre 16 et 18 ans, on se cherche. Hein, et donc, ce sont aussi des modèles. Alors, je vais montrer en quoi, finalement, dans ces deux exemples, hein, celui de Clash et celui de Debbie Harry, eh bien, on est à la fois dans le post-punk, mais avec aussi des éléments du punk, et comment, au travers de cette presse, et pas seulement... Hein, Rock and Folk et Bess, se fait aussi un transfert culturel. Parce que, évidemment, c'est un produit d'importation. Voilà une de mes reliques, hein, Sandinista, vous voyez, 3 LPs, special price. J'ai acheté en 81. Et donc, c'était des produits d'importation, mais dont on ne comprenait pas forcément la signification. Les paroles, il n'y avait pas Deep L pour traduire immédiatement tout. Donc il y a aussi, évidemment, dans le transfert culturel, eh bien, la réception, la transformation. Et on va voir justement que cette réception, elle se fait autour, finalement, de l'hyperféminisation de Debbie Harry, d'un côté, et puis autour d'une virilisation, d'un côté, et d'une politisation, finalement, du corps des Clash, hein, qui passe du punk au... alors on va essayer de définir quel sera le style. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un gilet, évidemment, parce que les Clash portent des gilets, ils sont très chics lorsqu'ils sont à Mogador. Hein. Alors, premier point, donc virilité punk, les Clash en 78. Voilà comment Obalk, Soral et Psach évoquent en premier les Clash. En 69, un jeune hippie interrogé sur le mauvais temps par un journaliste au festival Woodstock affirmait « c'est la CIA ». En 77, 8 ans plus tard, Joe Strummer, chanteur des Clash, célèbre groupe punk, déclare à propos des stupéfiants « nous pensons que les drogues dures sont une arme utilisée par la CIA pour détruire les révolutionnaires et les gens qui veulent faire quelque chose ». Et on ajoute « les premiers punks sont des hippies qui détestent les hippies ». Et c'est vrai que d'ailleurs, Strummer ou Mike Jones jouent d'autres musiques hein, avant de jouer la musique punk. Alors, il y a évidemment, les Clash sont un groupe qui va évoluer, hein, aussi bien sur le plan musical que aussi bien sur le plan vestimentaire. Hein. Bon, le premier, c'est en 77, hein, look nettement, évidemment, punk, hein, je ne le détaille pas. Mais dès 78, dans un article de Rock'n'Folk, voilà comment on les détaille. Alors là, ça m'a fait penser à... J'ai pas retrouvé hein, la citation exacte. C'est Jean-Jacques Burnel qui dit que les Clash, c'est le premier boys band qui a été créé par Bernie Rhodes et chacun joue son rôle. Et là, c'est très clair dans Rock'n'Folk. Miles Jones, 23 ans, costume jaune canari. Bon, c'est pas celui qu'on voit sur la photo. Et chapeau de Sky noir. Bon, celui, évidemment, du ska. Bière négligemment tenue à la main. Gauche a souvent été traité de poseur. Injure suprême en Albion. On lui a aussi reproché, entre autres, de se prendre pour une putain de rockstar ou d'accentuer sa future ressemblance avec Keith Richards. Mike Jones est presque mon Clash favori. Moi aussi. Ensuite, alors évidemment, Mike Jones, ce serait peut-être dans les Spice Girls, Poche ou ce type de personnage. Hein. Alors, mais de fait, je ne peux m'empêcher de ricaner de plaisir en voyant Joe Strummer se raser avant le concert. Croisement étrange entre Marlon Brando et Johnny Hallyday. Là, on est dans le transfert culturel, évidemment. Comment comprendre, finalement, ce produit qui vient d'Angleterre ? Joe est devenu, par ennui, le Clash silencieux de constitution fragile. Là, le corps, évidemment, intervient. Même s'il fait, on l'a vu, des marathons en 83, il met un point d'honneur à ne jamais se mêler, que ce soit aux punks locaux ou à la mafia du showbiz. Donc lui, c'est vraiment, finalement, l'exemple type de l'intègre, qui tente de graviter autour du groupe. Joe est si cool qu'il peut passer un repas à la coupole, donc seul un parisien peut comprendre ce que ça veut dire, assis à une table distante de 10 mètres des festivités, buvant un verre d'eau toutes les deux heures, etc. Alors, le vrai corps, c'est celui-là. C'est évidemment Paul Simonon. Le hasard fait bien exactement les choses, et Paul Simonon a exactement la tête de l'emploi. Ce bassiste-là possède une force peu commune, une espèce d'aura préhistorique. Paul Simonon, exact, est quelque chose comme une bête. Quand il entre dans une pièce, tous les hommes le regardent avec un mépris teinté de jalousie. Toutes les femmes sentent comme un chêne grandir entre leurs cuisses. Je ne sais pas si on pourrait écrire aujourd'hui ça dans Rock'n'Folk.
Ça m'étonnerait.
Sur scène, il bouge beaucoup, comme un vrai fan de Jim Hendrix sait le faire. Sans cesse, son manche de guitare voltige et virevolte, accrochant les faux de la rampe, sans pitié, etc. Et voilà la photo principale qui est donnée, évidemment. C'est la bête, hein, avec sa basse un peu basse, hein, évidemment, face au public. Alors, il y en a un dont on parle peu et c'est intéressant, c'est le vrai punk, finalement, de la bande. Hein. Et le lecteur, cet être ô combien perspicace, courbe déjà l'échine, attendant ici un portrait du batteur, Topper Eden. Quel dommage, nous n'avons aucune envie de le brosser ici après, un autre jour peut-être. Et pourtant, pourquoi ? Parce que lui, il est vraiment le punk, hein, tout blafard, avec les cheveux, l'air toujours, un peu l'air à la Sid Vicious, hein, une sorte de grimace. Bon, pourquoi ? Parce que c'est Bertignac, alors je passe, donc j'ai lu récemment l'autobiographie de Bertignac, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, mais Bertignac a voulu engager Topper Eden, et en fait, le problème, c'est que Topper Eden lui dit, elle nous explique qu'il a dilapidé les millions gagnés avec les Clash en dope et en voiture de luxe, exposés dans un accident, et puis il l'héberge dans sa maison du Pré-Saint-Gervais, mais en fait, le problème, c'est que ses caprices, c'est que c'est resté un héroïnomane, et donc il le vire. Hein. Mais finalement, le seul qui soit resté fidèle au punk, c'est Topper Eden. Et d'un point de vue corporel, si vous écoutez les Clash, moi, il me semble que ce qui frappe aujourd'hui, c'est la batterie. C'est un putain de batteur, comme dit Bertignac, apte à jouer tous les tempos, tous les rythmes. Mais c'est celui, finalement, qui évolue le moins. Alors, un peu punk mais sexy, Debbie Harry. Bon, les femmes, elles sont pas très présentes hein, dans Rock'n'Folk. Et celle qui en parle parmi, finalement, les premières, c'est Pascale Jugé, qui est une journaliste qui écrit aussi rockeuse les héroïnes du jukebox. Alors elle évoque toutes ces figures, hein, Sylvie Vartan, qui n'est pas vraiment punk, France Gall, Françoise Hardy. Elle évoque aussi évidemment quelqu'un qui a été assimilé au punk comme sens de rupture par rapport à la musique qui était faite avant, c'est Patti Smith. Hein, au départ, elle est identifiée dans ce mouvement punk américain, mais c'est évidemment pas du tout la même chose. Alors voilà ce qu'elle écrit. « Reste blondie, Deborah Harry, un brin 60s, voire les damiers de son dernier album, un brin disco, voire Heart of Glass, un brin star, le tout photogénique. Hein. » La photo d'en haut, c'est celle qui illustre évidemment l'article et qui doit faire fantasmer hein, tous les adolescents qui lisent ça, ou les jeunes gens. Debbie a même déjà tourné deux films underground, c'est ce qu'il relie évidemment au punk, même nonchalante. Elle crève l'écran de Unmade Bed, un film fortement influencé par Godard. Et même si elle déçoit en concert, Debbie est vraiment irrésistible. C'est un lot commun, lorsqu'on décrit les concerts de Blondie, on dit que Debbie Harry n'est pas très bonne, dans le sens où elle chante un peu faux, et c'est vrai quand on écoute certains lives. Et puis, elle ne sait pas très bien où se situer. Hein. Alors, c'est ce que dit notamment Rock and Folk. Hein. Donc, voilà, un concert très professionnel. Hein. Debbie ne sait pas trop bien se tenir sur scène, à moins que cette gaucherie ne soit volontaire. Mais qu'importe, elle est mignonne et fraîche, vue de loin sous les projecteurs. Voilà ce qui est dit, hein, évidemment. Et ça va à l'encontre, évidemment, de ce que écrit Debbie Harry. Mais la photo qui est donnée, c'est celle-là. On a l'impression, c'est quoi elle est sauvée par un pompier d'un incendie. Bon, évidemment, on imagine qu'elle est découverte hein, sous la couverture. Donc, il y a une hypersexualisation, évidemment, de Blondie. Alors même que, évidemment, les chansons et la musique de Blondie est beaucoup plus complexe. Hein. Alors, interview, donc vie privée, Deborah Harry est une femme foncièrement simple et réaliste. C'est en surmontant sa timidité des débuts, quand le public ne réagissait aucunement à sa présence physique, qu'elle attire attention non seulement sur son concept, mais également sur le concept de son groupe. Bon, ce qui fait que, bien évidemment, le traitement de Debbie Harry, ça tourne très largement autour de la sexualité, autour de ce fantasme, autour finalement d'une chanteuse qui est jolie, hein, un peu fragile, donc tous les stéréotypes, et voilà ce qu'écrit le journaliste de Best, hein, teinture noire, rencontrer Debbie Harry ailleurs que sur les frigides hectachromes d'un quelconque magazine, était, même si je me doute qu'elle n'a rien d'original, une idée qui me trottait dans la tête depuis un bon petit moment de temps, et j'avais eu mon compte d'émotions fortes pour la soirée. Hein, et il ajoute hein, tout un discours. Avant elle, il y avait bien eu Patti Smith, certainement un courant, une fille qui écrivait et chantait du rock'n'roll, c'est du nouveau, mais qui raisonnablement aurait pu avoir envie d'elle. Ceci dit, cette photo qui est donnée dans Best, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un article qui est autour des perruques qui sont utilisées par Debbie Harry. Et on voit évidemment que le look de Debbie Harry, et c'est ce qui était évidemment assez étonnant pour celui qui aimait Blondie, eh bien il variait beaucoup. Et là, évidemment, c'est plus du tout la jolie blonde, hein, c'est celle qui se teinte les cheveux, un look à la limite finalement du punk, et une allure très juvénile. Alors même que, c'était une grande question que je me posais, c'est que Debbie Harry est née en 45, elle avait 33 ans hein, en 78. Donc elle n'avait pas du tout, évidemment, l'âge d'un Mike Jones, par exemple, qui avait 23 ans au même moment. Hein. Et voilà, dans le livre de Soral et compagnie, la punkette, hein, qui est évidemment un autre look que celui de Debbie Harry. Lorsqu'on était lecteur de Rock'n'Folk, on pouvait compléter la collection de Rock'n'Folk, et donc en achetant. Et quel est le Rock'n'Folk épuisé? C'est la couverture avec la sexy Debbie, d'où finalement quelque chose qui fonctionne relativement bien. Alors pour terminer, comment évolue la corporéité des Clash hein, entre énergie, mode rétro et conscience politique? Alors voilà ce qu'écrivent Obalk et compagnie. Le punk gauchiste est un intellectuel, il se prend au sérieux et ne plaisante pas avec la politique. C'est vrai de Joe Strummer. Hein. Préoccupé par les quartiers de haute sécurité, la législation du H et les bavures policières, il est radicalement pro-palestinien et se demande s'il ne va pas se résoudre à quitter le domicile parental pour entrer dans la clandestinité. Alors, bah, c'est un petit peu évidemment le lot de Clash. Et lorsque Clash arrive finalement à Mogador, en fait, toute la presse généraliste s'y intéresse. On sort de la presse musicale et notamment le Petit Journal, c'était le supplément de Télérama, si vous habitiez dans la région parisienne à l'époque, notamment de Philippe Barbeau, qui était le critique rock de Télérama et qui essayait toujours de jouer sur finalement l'humour. Alors voilà comment il écrit, un beau cadeau de fin d'année, 7 jours frénétiques avec le groupe le plus affriolant depuis la bande des Pieds Nickelés. Bon, voici la référence, le Clash, avec leur patronyme qui éclabousse, mi-plongeon, mi-carambolage, Joe Strummer et ses comparses ont réussi la soudure idéale, celle dont rêvent tous les requins du rock, un mélange explosif de classicisme éprouvé et de modernisme hardi, autrement dit, le lyrisme d'antan associé à la froide efficacité du moment, bon, etc., etc. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve d'une certaine manière ce que Pascal Horry appelle l'intellectualisation du trivial. C'est-à-dire qu'il y a finalement, chez Télérama dans l'Obs, ce phénomène musical qui s'enrichit avec Sandinista et puis avant, évidemment, avec le chef-d'œuvre London Calling. Eh bien, on cherche finalement à lui donner une dimension pour l'annoblir. On est aussi, il faut dire, en septembre 81, après l'élection de Mitterrand, au début de politique de Jack Lang, qui va vouloir ouvrir évidemment les cultures. Même chose dans le Nouvel Obs, c'est... Alors voilà la photo qui est intéressante dans le petit journal, The Clash à Mogador, le papier n'est pas de bonne qualité, mais bon, Topper et Dunn jouent toujours d'une certaine manière au punk, mais les autres, évidemment, on a l'impression qu'ils sont soit dans un film de western, et ils sont vêtus désormais en costume, etc. Tout ce qu'on pouvait trouver au puce de Clignancourt, manteau, chapeau, etc. Voilà Nouvel Obs, ça démarre sur les comptines et ça débouche sur Apocalypse. Le rock qui cogne fort et qui emballe dur. Clash ne s'est pas enrichi jusqu'ici que de sa renommée. C'est vrai qu'ils avaient abandonné leur royalty sur les 200 000 premiers exemplaires de Sandinista pour pouvoir sortir un triple. Mais le rock a retrouvé sa vraie dimension culturelle, sociale et politique. Bon, c'est une dimension du punk, mais on peut dire aussi que finalement c'est une autre manière d'annoblir cette musique dans un périodique, un hebdomadaire qui est plus habitué finalement à la chanson française traditionnelle ou à la musique classique. Et sa vocation première, capter les frustrations et les désirs d'une génération et transformer sur des textes brûlots et des rythmes sismiques en énergie et rébellion. Bon, c'est évidemment, le corps est présent, même s'il n'est pas cité ici. Le tropisme français, il est important, pourquoi ? Parce que il y a un succès énorme. On interviewe même Joe Strummer au journal d'Antenne 2. Finalement, bon, il y a cette interprétation française qui en fait, au-delà du post-punk, des intellectuels en quelque sorte. Et justement, c'est ce que dit Best, c'est que beaux esprits et corps de feu, nous autres grignoteurs de grenouilles savons aimer ce qui est juste et bon. Bon, citation religieuse, bien avant toutes les autres peuplades du monde, à commencer par la chichiteuse marâtre de nos héros, l'anglaise, qui les renie tout ce qu'elle peut. On voit le style un peu empoulé. Alors pourquoi ? Parce que bon, c'est Chris Needs dans Joe Strummer and the Legend of the Clash qui dit que, au moment de Sandinista, justement, les Clash eh bien, sont fortement dénigrés par la presse anglaise. Le Melody Maker dit à propos de Hitsville UK, qui est le premier single sorti de Sandinista, c'est décrit comme « insipid junk from all times punk », un déchet insipide des vieux temps du punk, ou de vieux punk, ou d'anciens punk. Et puis The New Musical Express, « what do they see when they look in the mirror ?» Les guérillas du troisième, du tiers-monde, avec des toupets, donc avec une sorte de banane. Donc évidemment, pour eux, les Clash sont avant tout des poseurs, plus que, évidemment, des gens authentiques. Ce qui est important, c'est évidemment ce tournant esthétique corporel qui commence en 80 et qu'on retrouve évidemment au moment de Mogador. Voilà, en juin 80, donc on est un an avant. Rock'n'Fall, je crois que c'est Philippe Manoff qui écrit ça. Costard, ascenseur pour l'échafaud, pompe, Pépé le Moco, Luke Borsalino, tous nippés comme des princes, raides et frimants comme des perdus, la dégaine lupide, je ne sais pas ce que ça veut dire, et le poil gominé, le cheveu artistiquement relevé sur l'occiput, à la résistante, ou à la rigueur, à l'après-guerre collabo, les manches désinvoltes et le nœud pape coincé, l'épaule rembourrée et le son verni, le swing acier, presque hard, dis donc, et le tonus très impénétrable, les clashs aigus se pointent, ce sont les nouveaux héros rock rose, claques sans tâche et rythme bombardier. Et puis, autre chose, aventure épatante, bagou ébouriffant, jarret d'acier, nerfs prodigieux, on dirait un peu, finalement, la littérature sportive d'avant Première Guerre mondiale. Ces gars-là sont indégonfables, non du pipe, et toute une faune autour de Rhodes, Pépé bien bousculé, bon, on est là évidemment dans des choses qu'on ne pourrait plus franchement écrire aujourd'hui, à la mode de grand-papa, suspect, canaille, apache, ex-macaque, loustic, zazou, vaurien et blouson noir, non, si la preuve, cette photo d'un trafic, scotch, barési et bat nana pour un clash en douceur. Ce qui fait que, bon, qu'est-ce que ça veut dire tout cela ? C'est que l'interprétation, finalement, des clashs au moment de Mogador, c'est un mélange, à la fois, évidemment, l'idéologie tiers-mondiste pour les sandinistes. C'est aussi ce modèle corporel qui a su évoluer sortir du punk, mais avec toujours cette énergie, avec cette violence. Hein. Je me souviens être sorti du concert avec les oreilles qui sifflaient. Hein, et j'avais trouvé que The Beat, qui jouait avant, avait une finesse musicale bien supérieure à Clash. Et avec, évidemment, une dégaine vestimentaire que, désormais, les Français pouvaient comprendre, parce que ça faisait un peu zazou, ça faisait un peu mode rétro, qui était celle des années 70, ce qui a contribué très certainement, au-delà de la musique, à la popularité du groupe. Alors pour conclure, j'ai essayé évidemment d'évoquer ici à la fois des souvenirs, de mettre à distance un peu cette littérature rock, qui me semble aujourd'hui quand même très genrée, très masculine, très virile, un petit peu complaisante, et en même temps un moment où finalement le punk est très polysémique. Alors certes, il y a les punk, si j'ose dire, hein, même si pour beaucoup de Français, le punk, c'est Plastic Bertrand, hein, c'est pas les Bodzok ou d'autres groupes. Et en même temps, eh bien, un mouvement qui a été très riche dans le sens où il a fait éclater la musique telle qu'elle a été pratiquée jusque-là et a donné naissance à de très nombreuses branches autour, toujours finalement, d'une association entre musique qui s'enrichit et dimension corporelle et vestimentaire. Et il n'est pas fortuit, évidemment, qu'en 1984, le livre « Les mouvements de mode expliqués aux parents » est un succès très important, parce qu'on surfe finalement sur cette vague depuis 8 ans où les manières de s'habiller accompagnent très fortement la musique rock. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Ouais, merci Paul pour cette excellente présentation sur l'esthétique punk hein, et aussi sur la médiatisation, hein, parce que c'est quand même une relecture. Et moi j'ai bien aimé le côté, on vous parle d'artistes étrangers, mais c'est un support média français, donc qu'est-ce qu'on en dit? Et je suis tout à fait d'accord avec toi, avec Solveig, on a beaucoup bossé sur rock and folk et sur le côté viril, voire machiste hein, de cette presse-là. Et on s'en rend compte quand on considère qu'à peu près tous les 2-3 ans, ils font un spécial fille. Alors il y a un spécial fille, mais ça va tard, hein, jusqu'en 2000. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on considère que voilà, c'est une aventure de mec et que de temps en temps... Je ne sais pas si tu as vu le sous-titre, c'était l'année de la fan le jeu de mots. Et voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose de très important à considérer quand même sur cette appréhension qu'on peut avoir du punk et du rock plus largement. Hein, pour cette presse-là, c'est une affaire de mec. Autre remarque sur Clash, le côté, enfin tu l'évoques à travers... Sandinista, c'est le côté politique. Clash était vraiment perçu comme un... Dans Root Boy, on voit ce t-shirt Brigade Rouge. Enfin, oui. Ils ont un côté corporel très, très engagé, hein,
là,
Clash.
On est aussi dans la provocation punk.
Tout à fait. Et puis, ils étaient engagés aussi sur tous les mouvements Rock Against Racism, enfin, qui sont très précoces en Angleterre. Bon, voilà, c'était pour te remercier. J'ai pas de...
J'ai juste une petite question en évoquant tes souvenirs. Est-ce que tu te rappelles le jeu de scène, toi, des Clash? Est-ce que, Simone, je suppose qu'il avait la basse très basse et tout, mais est-ce que ça bougeait beaucoup? Quel souvenir tu as de qui occupait la scène? Peut-être plutôt Strummer que Jones? Enfin, je sais pas, tu peux nous dire.
Oui, dans mes souvenirs, mais les souvenirs, on les reconstruit un petit peu aussi.
C'est juste.
Oui, Strummer au centre. Hein, il me semble que Mike Jones sur sa droite, donc à gauche, et Simonon à droite. Mais bouger, honnêtement, je préfère ne pas dire parce que j'ai pas souvenir. Le souvenir que j'ai gardé, c'est d'abord j'étais très fier. Non, le lendemain, on avait lycée, ceux qui en étaient, et encore aujourd'hui, d'ailleurs j'en parle aujourd'hui, encore aujourd'hui, je peux dire, les jeunes, moi j'ai vu les Clash, hein, Et donc il y a cet élément de fierté, alors qui renvoie justement à la culture masculine aussi, parce qu'il y avait surtout que des mecs. J'y étais qu'avec une bande de mecs, hein, qui étaient liés à la musique. Il y avait Michel Gondry, qui était le réalisateur, hein, qui était batteur de films. Il y avait Eric Vincent, qui est devenu le manager de Zaz, mais il y avait que des mecs. Et dans la salle, il y avait que des mecs aussi. Que des mecs. Il y avait quelques filles, mais c'était quand même très 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 masculin comme ambiance.
Et moi, je voudrais faire une remarque. C'est pas par rapport à la position des musiciens sur scène. C'est tu l'as dit. Hein, c'était le volume sonore. Et ça aussi, c'est le corps. C'est-à-dire qu'effectivement, on était loin des 105 dB aujourd'hui. Normalisation de l'espace du concert aujourd'hui. On a 105 dB dans tous les lieux de concert. À l'époque, on repartait et Clash. Je me souviens d'une émission de télévision. Les types s'étaient mis en grève, les techniciens de plateau, parce que le groupe jouait trop fort. Hein, donc ça, cette appréhension corporelle aussi du son punk, un son violent, hein, qu'on prend dans la gueule. Hein. Et tous les concerts de l'époque, que ce soit les Stranglers, les Ramones, les Clash, on repartait, on avait 15 jours d'acouphènes. Quoi, hein. Donc c'est un truc aujourd'hui qu'on mesure pas. Hein. Ça fait partie quand même des choses qui ont été aussi oui. des normes incorporées, en fait. On savait que ça allait être violent. Quoi.
Et le corps vibrait, pas seulement les oreilles.
Exactement.
Entièrement. Et c'est le souvenir, c'est qu'on entendait surtout la basse et la batterie. Alors, j'ai passé vite, mais dans Bess, justement, ils disent que la sécurité, c'était dans un théâtre en ruine. Et donc, il y avait aussi cet aspect dégradé, un peu squat, finalement. Les Clash squattaient un théâtre du Second Empire. Donc, il y avait cette dimension punk. Et dans la manière de jouer, c'était évidemment, on était très loin des fioritures, si j'ose dire, de London Calling ou de Sandinista. On était dans la musique punk, clairement. Donc là, on y était resté.
Peut-être rajouter une petite remarque, si personne ne veut parler. C'est un truc qu'on a pas mal discuté aussi entre nous, des membres du projet PIN et même en journée d'études. Et vous en avez parlé, effectivement, ce côté très masculiniste, non pensé comme tel, effectivement, dans la manière de faire la presse. Pour autant, on voit bien, et là, je contrebalance avec peut-être une génération ouais. plus actuelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le discours, je veux dire, porté sur le genre est vachement mis en avant comme même valeur apportée dans tout ce capital symbolique à acquérir dans cette scène-là en tant qu'acteur punk. Pour être punk, il faut être antisexiste. Hein. Pour autant, les normes de reproduction sociale masculine, c'est toujours des hommes qu'on voit sur scène. Moi, j'irai pas trop rapidement à dire qu'effectivement, il y a plus de femmes sur scène. J'en suis pas sûr, j'en sais rien. Faudrait faire des statistiques et là, c'est impossible à faire peut-être d'un point de vue méthodologique, mais je m'interroge, je ne sais pas ce que vous pouvez en dire peut-être vous là-dessus, mais par rapport à ce qu'on en dit effectivement, mais c'est quand même assez paradoxal quoi. Ça reste du coup dans les discours, effectivement dans les discours c'est là, hein, y a une position dans les discours, mais dans les actes.
Oui, là c'est compliqué, mais je pensais à deux choses. Je pensais au texte des Clash, la femme elle n'est pas présente, me semble-t-il. Bon, où il peut y avoir un peu d'amour, hein, « Should I stay, should I go ?» Mais pour le reste, c'est du marxisme, léninisme. Enfin, c'est la vraie, finalement, révolution et la vraie émancipation, c'est celle des peuples du tiers-monde, etc. Et puis l'autre chose, je pensais, justement, bon, c'est une saison où j'ai vu en février ensuite Police. Alors là, niveau musical, c'était nettement supérieur. Aussi dans un hangar au Bourget, dans des conditions aussi aujourd'hui qu'on ne peut pas imaginer. Et puis, en juillet, j'ai vu Talking Heads et Tom Tom Club. Au Palais des Sports, où là c'était mieux organisé. Mais là c'est intéressant parce que Tom Tom Club, il jouait Donc il y avait Tina Weymouth et sa sœur ou ses sœurs devant en mini-jupe, etc. Il y avait plein de lecteurs, évidemment, de rock and roll qui est un peu libidineux qui étaient devant. Hein. Donc elle jouait devant, elle jouait d'abord, et puis après il y avait le sérieux, c'est-à-dire Talking Heads où il y avait seulement Tina Weymouth. Et donc un groupe finalement particulier parce que la bassiste était une femme, mais autrement des hommes. Donc. Oui, quand on pense à l'époque, c'est essentiellement, ou alors une chanteuse. Et mon regret, c'est de ne pas avoir été voir Blondie, finalement, en concert à l'époque.
Si on regarde sur les groupes qu'il y avait à l'époque en France, pour le coup, symétriquement, bah, il y avait pareil ces groupes, avec, par exemple Shaking Street, avec Fabienne, chanteuse. Le seul groupe, enfin, je sais pas, hein, Laurent, il y avait les Looz, groupe féminin, mais dont la presse, en réalité, que tu as évoquée, ne parlait que très peu. Je me souviens, c'était dans Béret Punk, qui était la petite rubrique qui avait émergé en 77, où, bon, il y avait une page sur les groupes punk, et de temps en temps, on parlait des Looz ou d'une chanteuse, mais c'était vraiment très, très minime pour ce qui concerne la scène française, en tout cas, hein, sur l'époque que tu as évoquée, hein, bien sûr.
C'est ça. Avant de laisser la parole à Luc et Solveig, je fais une petite conclusion vite de la journée parce que je vais me barrer. Vous m'applaudissez parce que je me barre, c'est ça? Ok. Merci beaucoup pour Paul, en tout cas.
Merci Paul.
D'autant plus que ça faisait un peu ancien combattant. Mais...
Ouais, enfin, il y a des gens à qui ça parlait. Je sais pas lesquels, mais il y en a qui ça parlait. Donc merci beaucoup pour tous les intervenants. Juste pour résumer, je reprends l'intro qu'on a donnée de Vigarello en 2003. Alors évidemment, toutes les contributions sont inscrites dans les trois dimensions de Vigarello, que vous êtes tous retenus par cœur, donc je ne vais pas y revenir. Non, je déconne, personne n'a rien retenu. Donc je vais vous les faire. Évidemment, je vais citer que ma perception. Bien évidemment que vos contributions, elles vont dans trois axes différents pour la plupart. Donc pour moi, le principe d'efficacité, c'était par exemple Sacha avec le corps du guitariste. Principe de propriété, mais plus par rapport au territoire de l'intime. J'aurais peut-être vu le roller derby de Orlan pour ses filles. J'aurais peut-être vu la tournée de Manu Roux, qui arrête pas de se plaindre. J'aurais... Et enfin, pour le principe d'appartenance, alors c'est vrai que c'est beaucoup plus large et beaucoup plus facile, puisque de toute façon, l'identité du punk, elle est dans le titre. Mais globalement, voilà, un Paul sur les styles corporels, Baptiste sur le skate, Philippe Roisès ce matin sur la tribune Boulogne, et puis Caroline aussi, effectivement, sur sa contribution, le corps punk dans les squats, et puis qui nous a un peu chié d'ailleurs sur l'évolution entre les anciens squats et les nouveaux. En tout cas, on vous remercie tous vraiment de votre participation, parce que en fait, par rapport à la journée initiale, enfin, on était d'accord pour dire que le programme il est encore de meilleure qualité que ce qu'on avait initialement prévu. En tout cas, on n'a rien perdu, même si peut-être ceux qui ne sont pas venus et qui auraient été présents initialement auraient fait un super truc comme vous. Mais en tout cas, on vous remercie encore sincèrement. Voilà. Ah, c'est à moi.